Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la ProductConf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute.
Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Jean de la Roche-Brochard, je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free, via Kima Ventures. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui sont les produits, ce qu'on appelle... Alors, vous allez m'excuser, je suis désolé, j'ai utilisé beaucoup d'anglicisme, parce que dans le monde qu'on appelle consumer product, malheureusement, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, il n'y a que les boîtes américaines qui rachètent nos boîtes françaises sur le sujet. Du coup, on fait tout autour de ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui sont les consumer products, notamment mobile. Mais je vais aussi parler d'une consumer company que vous connaissez bien, qui s'appelle L'Oréal. Ça va vous donner un peu de perspective sur le sujet au global. Et le sujet des consumer products, il a commencé à m'intéresser en réalité en 2013, quand j'ai fait la connaissance d'Antoine Martin et d'Alexis Bodigno, les deux cofondateurs de Zenly, à l'époque Alertos. Alertos, c'était une app pour détecter quand vos enfants rentraient à la maison ou arrivaient à l'école. Et moi, jeune papa, c'était un sujet qui me parlait. Et je leur ai envoyé un message sur leur support Zendesk pour leur dire « Vraiment, votre app, elle est géniale, merci ». Puis après, j'ai essayé l'app, qui était toute buggée. Puis j'aurais renvoyé un message en leur disant « il y a quand même un peu de boulot sur le produit ». Évidemment, le produit, j'y connaissais rien, j'y connais toujours pas grand-chose. Mais ça nous a permis de nouer une discussion et donc de faire connaissance. Et pendant 2 ans, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on buvait un café et ils me tenaient au courant de leur péripétie. Et puis un jour, Antoine m'a appelé et m'a dit « Jean, on a sorti un truc, n'en parle à personne ». Télécharge, c'était en janvier 2015, ça s'appelle Zenly. Et je lui dis, mais Zenly, ça sert à quoi? Il me dit, ça sert à voir la position des gens et leur batterie en temps réel, de manière précise, et sans tuer ta batterie. Et je lui ai dit, mais en fait, les mecs, vous régressez, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, bon, c'était cassé, mais ça servait à quelque chose. Là, maintenant, ça sert à rien, ça sert juste à voir où sont les gens. Ce jour-là, il m'a répondu « Oui, bah, tu sais, un jour, il y a une app qui est sortie qui permettait d'envoyer tes photos de cul qui s'effaçaient au bout de 10 secondes tu vois, à ta copine, et ça s'appelle Snap, enfin Snapchat à l'époque. » Donc tu vois, il faut bien commencer avec quelque chose de simple, et puis à partir de là, on verra ce qu'on va faire. Et en septembre 2015, quand j'ai rejoint Kima, à l'époque, Zenly voulait lever leur série A. J'en ai parlé à Xavier. Et on a investi un peu plus de 3 millions d'euros à cette époque-là sur un tour global de 6-7 millions d'euros pour une boîte qui, à l'époque, avait seulement 10 000 daily active users. Donc 10 000 daily active users, c'est rien, c'est zéro. En fait, il y a plein de gens dans la salle ici qui ont beaucoup plus de 10 000 daily active users. Et pourtant, à l'époque, on a senti qu'il y avait quelque chose de spécial avec cette équipe, quelque chose de spécial avec ce produit, et qu'ils étaient en fait à l'aube de créer quelque chose qui était beaucoup plus gros que juste géolocaliser ses amis en temps réel et avoir leur position de batterie. Et puis, à mesure du temps, on a vu Zenly grandir, Zenly plus ou moins réussir, quand on a vendu à Snap en 2017, pour pas loin de 300 millions de dollars. Et à cette époque-là, on a accompagné d'autres boîtes françaises et internationales des produits consumer, et à chaque fois, on se posait la même question. Mais comment est-ce qu'on fait au démarrage d'une boîte aussi jeune, alors qu'on a 2-3 personnes, pour comprendre ce qui va faire leur succès futur? Et ça, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon, self-fulfilling prophecy, eh ben, c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à déterminer plus tard les boîtes qui ont réussi et donc qu'on aurait pu détecter à l'époque où elles valaient rien. Snapchat, c'était tout simplement envoyer des photos éphémères à vos proches. Zenly, c'était juste géolocaliser vos amis. Twitch, c'est regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et Facebook, c'était un trombinoscope dans les universités. Autant vous dire qu'à partir de là, il est difficile de déterminer si ces boîtes vont être des succès mondiaux et vont valoir des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Alors, ce qu'il faut trouver dans tout produit consumer, quand vous faites face à un entrepreneur, au-delà de sa vision et de ce qu'il vous raconte, vous, en tant qu'entrepreneur, il faut que vous arriviez à trouver une chose, une seule, qui révèle la vérité sur ce que les gens veulent. Et si vous regardez les boîtes consumer qui ont le plus marché, il y avait toujours quelque chose qui a attiré l'attention à un moment tôt de la vie de la boîte, soit dans la data, soit dans le comportement, soit même dans la croissance générée par l'usage des produits. L'exemple de Facebook, c'est le suivant. Au démarrage, c'était un trombinoscope. Vous étiez dans une université, vous mettiez votre photo en ligne, et puis tout d'un coup, vous aviez le trombinoscope de l'université. Mais en réalité, ce dont ils se sont rendus compte à cette époque-là, c'est que les gens adoraient changer leur photo de profil régulièrement. Et que c'était ça l'attrait de la plateforme. C'était de venir dessus pour mettre de la nouveauté, pour que les gens continuent de se stalker en permanence. Vous regardiez le sujet d'Instagram. Instagram, pendant des semaines et des mois, ils ont fait le tour de bar avec leur application pour montrer les filtres qu'ils avaient développés, pour voir si les gens avaient de l'appétence pour ce qu'ils étaient en train de faire. Snapchat, c'est la croissance due au fait qu'il y avait un besoin pour les gens de pouvoir envoyer des photos de manière privée et éphémère à des proches. Zenly, ce dont on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'ils ont lancé l'app, la géolocalisation marchait très bien, elle était précise, elle était temps réel, elle ne tuait pas la batterie. Et lorsque tout d'un coup, les serveurs ont moins bien marché, que finalement la géolocalisation mettait une ou deux secondes à s'afficher, ou que ce n'était pas parfaitement précis, la croissance a commencé à diminuer. Donc on s'est rendu compte en fait que les gens avaient besoin de précision quand on parlait de ça. Si vous voulez parler de Tinder, j'en ai aucune idée. Et à propos de LinkedIn, c'est la reconnaissance professionnelle. Vous êtes dans un environnement avec une petite équipe et vous avez besoin de vous exposer aux gens autour. Et ce qui a fait la différence de LinkedIn, ce qui leur a permis de comprendre ce qu'il y avait d'attrayant pour les professionnels, c'était le principe de profile views. Combien de fois on a vu votre profil? Qui a vu votre profil? C'est ça qui intéresse les professionnels. Alors ça paraît bête, ça paraît simple, ça paraît trivial, mais ça c'est hyper important parce que c'est la narrative de tout produit consumer. C'est le hook psychologique qui est authentique, profond et durable qu'il faut aller chercher chez les gens. Parce que si vous n'avez pas de hook psychologique durable, authentique et profond, à un moment donné, les gens n'auront plus l'usage de votre produit. S'ils n'ont plus l'usage de votre produit, ils vont disparaître. Si vous regardez la narrative d'un Facebook, elle est toute simple. Hein. C'est le stalking, on ne va pas se mentir. Et ils font ça très très bien. La narrative de Instagram, c'est le beau. Avant, vous aviez votre téléphone, vous preniez vos photos, c'est simple, 9 photos sur 10, c'était nul. Vous utilisez Instagram, vous mettez votre photo, elle est nulle, vous appuyez sur un bouton, le filtre il est là, paf, photo magnifique. Si vous regardez Snapchat, l'importance de l'éphémère, c'est la privacy. Et si vous regardez aujourd'hui Snapchat, les messages que vous envoyez, quand vous voulez sauvegarder la personne en face de vous est notifiée et les messages par défaut s'effacent. Le principe de Zenly, c'était que 6 à 7 fois par jour, les gens s'envoient « t'es où, tu fais quoi ?» Donc ils ont besoin d'être rassurés. Et la géolocalisation permet de les rassurer par rapport à ça. Tinder, c'est de l'ego boost, tout bêtement. Si vous regardez la narrative de L'Oréal, c'est le bien-être. Les gens ont besoin de se sentir bien. Alors un jour, il faut que je vous raconte cette anecdote, elle était drôle. Je débarque chez L'Oréal pour un séminaire, un cours sur comment faire un bon pitch deck. C'était important parce qu'ils allaient présenter à leur CEO, à la prospective, les nouveaux produits sur lesquels ils bossaient. Et je leur dis tous, alors c'est quoi la narrative de L'Oréal? Et les gens me disent, c'est Biotitech. Je dis, mais Biotitech, ça ne veut rien dire. Qui vous a dit ça? C'est notre CEO, c'est important, Biotitech. Et je leur dis, mais non, votre narratif, c'est que les gens ont besoin de se sentir bien, c'est ça qui est important. Et donc, quand vous insufflez à vos employés, à vos cofondateurs, aux gens à qui vous parlez, la profondeur, la vérité sur votre produit, il ne faut pas vous tromper. C'est important de trouver cette narrative, parce qu'à partir de là, tout s'écrit. Et c'est autour de ça que tout va se faire. C'est à l'intérieur de cette narrative. Si vous regardez LinkedIn, c'est le besoin de la reconnaissance. Et quand vous regardez WhatsApp, ce qui a fait la différence pour WhatsApp, c'était tout simplement le fait que vous aviez l'accusé de réception, de lecture. Ça marche toujours, ça marche vite. Vous allez à un festival de musique, il n'y a pas de réseau, WhatsApp, ça marche. Vous savez quand est-ce que le message a été envoyé, vous savez quand est-ce qu'il a été lu. Alors évidemment, ça vous pousse à y revenir, et donc ça crée un effet d'addiction à la dopamine qui est là, mais en attendant, ça fait le job. Et sur la narrative de... On va y arriver. de WhatsApp, c'est la proximité. C'est de pouvoir mimer une vraie conversation que vous auriez avec quelqu'un dans la vraie vie au sein du chat. Cette narrative, c'est... Imaginez une toile d'araignée. Hein. C'est une grande toile d'araignée, elle est là. Et votre job, c'est de tout inscrire à l'intérieur de cette narrative. La narrative n'a de valeur auprès de vos consommateurs que si vous arrivez à créer une relation de confiance avec eux. Et ça, c'est essentiel, parce que sinon, vous tombez dans les pièges de Facebook et dans les pièges de toutes les applications qui, en fait, à mesure de bâtir plein de features et de ne pas respecter leur narrative, se retrouvent à perdre la reconnaissance des utilisateurs. La confiance que vous créez quand vous étiez chez Facebook à l'époque, c'était le réseau. Vous aviez votre réseau d'amis, votre réseau de proches, votre réseau de connaissances, c'était Facebook. La reconnaissance que vous aviez quand vous étiez... le lien de confiance que vous créez quand vous êtes sur Snap, c'est le sentiment de contrôle. C'est le sentiment de contrôle lié à la privacy, au fait que vos messages s'effacent, que vous avez le contrôle sur les gens. C'est même au-delà de ça. J'étais avec quelqu'un... j'ai un stagiaire cette semaine chez Kima, et il me dit, je suis hyper emmerdé, il y a Snap qui est tombé parce que Google a eu un bug il y a quelques jours. Du coup, Snap ne marchait plus. Et ben, la moitié de mes amis qui étaient à Paris avec qui je devais sortir, je ne pouvais pas les joindre. Et je ne pouvais pas les joindre pourquoi ? Parce que je les ai que sur Snap. Je n'ai pas leur numéro de téléphone. Donc, vous, moi, tous les gens en dessous de 25 ans, ça, on ne comprend pas. Mais eux, ils comprennent. Ils n'ont pas de numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est devenu juste une simple commodité pour venir t'identifier quand tu t'inscris la première fois. Mais après, ils utilisent Snap. Et ça, c'est un truc de malade. Et bien, Snap a continué de garder ce lien de confiance avec les utilisateurs grâce au contrôle. Si vous regardez Instagram, toutes les photos sont belles tout le temps. Peu importe si vous aimez ou pas le contenu, ce qui est sûr, c'est que votre feed Instagram, il est beau. Eh bien, la relation de confiance, c'est que c'est toujours le cas. Si vous regardez la relation de confiance que Zenly crée avec ses utilisateurs, c'est l'accuracy, c'est le fait que, que ça marche toujours. Sur le cas de Tinder, c'est du matching. Le job de Tinder, c'est de vous matcher avec des gens. S'ils n'arrivent pas à vous matcher, vous perdez la confiance, vous partez. Le lien de confiance de L'Oréal, c'est le brand. Le lien de confiance sur le WhatsApp, c'est la reliability du service. C'est l'accusé de réception. Vous envoyez un message, il est envoyé tout de suite, il est lu, vous le voyez, c'est temps réel. Et bien, toutes ces choses-là, elles sont hyper importantes pour chacune de ces boîtes parce qu'elles créent le lien de confiance qui donne sa raison d'exister à la narrative. Le jour où vous perdez le lien de confiance avec vos utilisateurs, votre narrative devient un démon, devient en fait le hook psychologique vicieux que vous essayez d'activer chez eux. Et ça, c'est mal. Donc, une fois qu'on a parlé de narrative, il faut arriver à extraire la primitive. La primitive, c'est quoi ? C'est la core feature qui d'abord se suffit à elle-même et autour de laquelle et à travers laquelle vous allez bâtir tout votre produit. Par exemple, dans le cadre de Facebook, ça a toujours été le post. Dans le cadre de Instagram, c'est le filtre, la primitive. Pour Snap, c'est la caméra. Pour Zenly, c'est la map. Pour Tinder, c'est le swipe. Pour L'Oréal, c'est leurs 3000 experts qui s'assurent que les produits que vous allez avoir avec le brand L'Oréal vous apportent du bien-être. Si L'Oréal faisait des produits mauvais, et ils en font certainement comme tout le monde, mais pas plus que les autres, vous n'iriez plus acheter du L'Oréal. Leur job, c'est que leurs 3000 experts développent toujours des produits qui vous donneront envie de racheter leurs produits. Vous regardez la primitive de LinkedIn, c'est votre profil, c'est votre CV. Aujourd'hui, quand on vous demande un CV, votre réflexe, c'est d'aller sur LinkedIn, de mettre « download PDF », de le mettre dans l'email et de l'envoyer. Et si la personne en face de vous vous dit « vous n'avez pas été capable de me faire un CV, pourquoi vous avez mis votre LinkedIn ?», n'allez pas dans cette boîte, elle est mauvaise. La primitive de WhatsApp, c'est le chat, tout simplement. Cette primitive, elle est au cœur de la narrative. C'est vraiment la fonction cœur. Et l'une des difficultés et l'un des problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs quand ils commencent une boîte, c'est qu'ils vont très vite faire du contexte product switching. Ils commencent sur un truc, ça ne marche pas, ils lancent un deuxième, ils lancent un troisième, ils lancent un quatrième. En fait, ils lancent plein de choses parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils ont fait avant ne fonctionnait pas. Et ben, ce que ça crée comme vice, ça crée un problème autour de la primitive qui fait que quand vous avez trouvé votre primitive, au lieu de vous dire « Oh putain, je l'ai trouvé, ça y est, maintenant il faut absolument que je la rende extraordinaire », eh bien les gens s'en détournent en se disant « Oh, faut absolument que je crée de la feature maintenant ». Et la feature, elle est importante parce qu'elle va permettre à mes utilisateurs de rester sur l'application. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de détourner les utilisateurs de votre primitive si vous créez plein de features autour. Votre job, c'est que les gens restent heureux d'utiliser le service pour lequel ils sont venus, pas de les détourner vers d'autres fonctionnalités. Ne devenez pas Facebook, ne devenez pas Instagram. Gardez de la pureté. On peut dire ce qu'on veut sur des gens comme Snap. Snap, aujourd'hui, la caméra s'ouvre plus vite sur votre téléphone que la caméra sur votre téléphone. Elle s'ouvre moins vite que sur Snap. Les gens, aujourd'hui, utilisent Snap par défaut comme caméra. C'est ça le job de Snap, c'est ça la primitive de Snap. Donc il faut être obsédé. Vous devez être obsédé et ne jamais vous arrêter de travailler sur cette primitive. Le jour où vous arrêtez de travailler sur cette primitive, le jour où vous arrêtez de vous poser la question si la feature que vous avez développée vous permet d'améliorer ou d'augmenter l'expérience de la primitive, vous êtes foutu. Vous devenez Facebook. Ça vaut quand même 450 milliards, hein, c'est pas, ou 500 milliards, c'est bien, hein, faut pas déconner, hein, mais bon. Comment est-ce qu'on améliore la primitive ? Ben en fait, on la prend et puis on regarde ce qui va la faire grandir. Ce qu'a fait Facebook, ils ont ajouté les réactions, commentaires, likes, partages, etc., autour de votre post, qui vous permet d'améliorer l'expérience autour du post. Pour Instagram, c'est les effets, ils ont rajouté des effets. Alors, si Instagram avait gardé une primitive un peu pure, aujourd'hui, sur Instagram, vous auriez des fonctions d'editing de vos photos et de vos vidéos qui seraient bien, bien, bien meilleures. Comme ils n'ont aucune imagination, ils se sont dit que c'était plus intelligent de copier Snap, et ça marche quand même, parce que c'est Facebook, c'est des gros bourrins. Mais si vous avez envie de faire quelque chose de votre vie avec une app dont vous êtes fier, eh ben vous ne faites pas Instagram tel que ça existe aujourd'hui. Il y a bien une raison pour laquelle Kevin Systrom s'est cassé de Facebook, le fondateur d'Instagram. Dans le cadre de Snap, c'est vous avez la caméra, il faut améliorer l'usage de la caméra, et donc ils ont créé les filtres, et ils ont créé les jeux, et les filtres et les jeux, ils ne sont pas en dehors de la caméra, ils sont dans la caméra, et tout est autour de ça. Si vous regardez Zenny, la map, alors vous n'avez pas accès à celle-là, mais moi j'ai accès à une version alpha du Tonnerre, ils ont bossé sur leur map engine, parce qu'en fait la map, qui est aujourd'hui fournie par les autres acteurs du marché, n'est pas assez puissante, pas assez augmentée, ne vous permet pas de faire de choses, qui va rendre l'expérience de localisation de vos proches incroyable. Si vous regardez comment est-ce qu'on améliore la primitive d'un Tinder, c'est il faut améliorer le matching. Pour L'Oréal, il faut améliorer les formules. Pour LinkedIn, il faut maximiser la valeur des connexions. Ça aussi, ils l'ont bien foiré, ça. Et sur WhatsApp, c'est la reliability. Vous allez à un festival, c'est blindé, il n'y a rien qui marche. WhatsApp, ça doit marcher. C'est comme si vous étiez en face de quelqu'un, vous essayez de lui parler, et en fait, il n'entend rien. C'est exactement la même chose, WhatsApp. Vous n'avez pas le luxe de faire ça. Une fois qu'on a cette primitive, qu'on continue de travailler dessus, qu'on est bien obsédé par le sujet, on peut commencer à bosser sur les enablers. Les enablers, c'est toutes les features qui, à l'intérieur de la narrative, et ça c'est important, sinon on se transforme en Frankenstein, on se transforme en Facebook, on se transforme en LinkedIn, vous permettent d'améliorer et de renforcer votre primitive. Chez Facebook, par exemple, un truc qui était malin, qu'ils ont fait dès le début, et pour le coup, ils ne se sont pas trompés, ils ont créé les pages. Les pages, c'était hyper important, parce que les pages, ça permettait de mettre des posts qui n'étaient pas liés au contexte de la personne, mais au contexte de quelque chose. Et ça, c'était intelligent. Si vous regardez les enablers autour de Snap, c'est le chat. Le chat est un enabler incroyable chez Snap, qui toujours respecte la privacy parce que ça s'efface par défaut. Donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas galvaudé la narrative. La narrative a toujours été autour de la privacy, autour du contrôle, autour du respect de la vie privée de l'utilisateur. Et quand ils ont fait le chat, ils n'ont pas copié WhatsApp, ils n'ont pas copié Messenger. Ils ont fait Snap. Et quelqu'un qui utilise Snap n'utilise quasiment que Snap, quand il s'agit du chat. Vous regardez Tinder, ils ont release cette fonction de j'allais dire partouze, mais en fait parties, c'est pareil, je crois, où les gens à plusieurs matchent avec des gens à plusieurs. C'est très bien comme enablers. Moi, je m'en fous, mais vous regardez Zenly, Zenly, vous vous retrouvez avec des gens en soirée. Votre objectif, c'est de créer des gatherings, c'est de mettre les gens ensemble, parce que la localisation et le contexte, c'est important. Vous êtes avec des amis, si vos autres amis peuvent voir où vous êtes, ils savent, enfin avec qui vous êtes, ils savent ce que vous faites, avec qui vous êtes, et ça donne tout le contexte à ce principe de géolocalisation. Si vous regardez L'Oréal, un des enablers de L'Oréal, c'est tout ce qui est lié au digital. Et ils sont beaucoup là-dessus. C'est vous utilisez une app qui va vous aider à voir quel est l'effet d'un vernis sur vos ongles, quel est l'effet d'un maquillage sur votre visage, en fonction de votre couleur de peau, quel type de produit il faut utiliser, etc. etc. LinkedIn a une fonction parfaite pour le recrutement. Et si vous regardez WhatsApp, un des enablers de WhatsApp qui marche très bien, c'est les groupes. Ce qui est important, c'est que ces enablers soient dans la suite logique de votre primitive, qu'elle l'améliore, et surtout, qu'elle reste bien à l'intérieur de la narrative. Parce qu'à mesure que vous êtes en train de construire un produit consumer, gardez en tête que votre expérience doit rester hyper focus, hyper clean et hyper informée. Donc ce que ça veut dire, c'est que d'abord, vous ne faites pas du Facebook. Okay, vous ne mettez pas le bordel. Facebook, c'est le bordel. Il y en a dans tous les sens. C'est comme Instagram. C'est cool, ça marche, c'est gros. Est-ce que vous seriez fier aujourd'hui de copier-coller Facebook? La réponse est non. Alors après, vous allez me dire, oui, mais Snap, ça vaut que 15 à 20 milliards. C'est pas très gros. Oui, c'est pas très gros, mais la stickiness, l'amour des gens pour le produit de Snap, est à des années-lumière de celui du produit Facebook. Facebook, c'est une machine à vis. C'est pour débloquer tous les vices des gens. C'est génial pour ça. Ils l'ont fait avec brio. Et donc, c'est important que vous respectiez vos utilisateurs. Genre, vraiment. Vous croyez qu'ils peuvent me faire un procès pour ça ou pas? C'est de la parodie. Hein. Vous savez, c'est le film L'Associé du Diable, avec Al Pacino et Keanu Reeves. Il faut que vous respectiez vos utilisateurs. La narrative, elle est importante. Les gens sont venus pour une primitive qui devait être pure, dans laquelle vous avez créé un lien de confiance. Le jour où vous cassez ce lien de confiance, vous cassez toute la dynamique sustainable, long terme, que vous créez avec vos utilisateurs. Et la dernière chose, et ça c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense, et c'est quelque chose qui est sous-estimé, qui est mal fait par les entrepreneurs, sur lesquels... je peux vous dire qu'avec notre portefeuille, même pour les boîtes B2B, mais aussi pour les boîtes B2C, on passe notre temps à revenir dessus toute la journée, c'est la data. La data va vous révéler des vérités que vous pouvez voir nulle part ailleurs. Typiquement, sur Facebook, quand ils se sont rendus compte que les gens changeaient leurs photos régulièrement, ça, c'est de la data. Quand Zenly s'est rendu compte que la croissance baissait lorsque le produit était moins reliable au niveau de la précision de la localisation, ça baissait. La data, elle parle énormément. Chez Zenly, un mec comme Antoine Martin, le CEO, ça fait aujourd'hui 6 ans qu'il est dans sa boîte. Il passe toujours 4 à 5 heures par semaine, sur Amplitude, partenaire de la Product Conf, trop fort. Et c'est le meilleur produit, donc utilisez Amplitude, ne cherchez pas. J'espère que vous avez des coupons, parce que ça coûte un bras. Genre vraiment. Genre c'est un truc, tu as levé de l'argent avec Kima et tu me rappelles un mois après en disant « Ouais, genre, on n'a plus d'argent, on fait un bridge. Mais pourquoi? J'ai tout mis dans Amplitude. » Quoi? C'est vrai. Du coup, au niveau de la data, c'est hyper important qu'il fallait parler. Amplitude, c'est incroyable. Regardez vos cohortes, faites des segments. Regardez comment l'usage des utilisateurs évolue. Regardez comment est-ce qu'un jeune, un vieux, par rapport à la typologie, les femmes, les hommes, dans un milieu urbain, dans un milieu rural, qui sont blindax, qui sont fauchés. Il faut absolument que vous regardiez votre data dans les détails. Parce que la data révèle toujours énormément de vérités que l'œil nu ne peut pas voir. Donc les deux choses importantes sur le consumer, c'est qu'au démarrage, vous allez commencer avec de la conviction. Vous avez commencé parce que vous avez identifié quelque chose. Vous avez commencé parce que vous êtes dessus. Quoi. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'instinct. Et ça, c'est magnifique. Et cet instinct, à un moment donné, il va falloir le nourrir avec tout le user research, toutes les analyses, toutes les observations que vous allez faire de vos utilisateurs avec le produit quand ils vont l'utiliser. Et ça, ensuite, vous allez le matcher avec votre data et vous allez les coupler ensemble. Et avec ça, vous aurez systématiquement la vérité sur si vous êtes sur la bonne voie pour votre produit contre tumeur. Merci.
Merci Jean. Alors, tu as quelques questions qui sont super intéressantes, qui sont posées par l'audience. La première est très simple, c'est en tant qu'entrepreneur ou product manager, comment tu détermines ta narrative ?
Comment on détermine sa narrative ? C'est hyper compliqué parce que la narrative, c'est exactement la même chose que ce que je vous disais au démarrage, c'est une self-fulfilling prophecy. Donc en fait, on va déterminer a posteriori ce qui s'est passé a priori. Les meilleurs entrepreneurs qu'on a backés et qu'on a vus, c'est des gens qui à un moment donné étaient obsédés par le sujet qui est devenu leur narrative. Evan Spiegel, c'est un mec obsédé par la privacy. Antoine Martin, il était obsédé par Foursquare déjà en 2010. Et c'est à cause de Foursquare et du fait que la map ne lui plaisait pas et que tout ce principe de meilleur, vous savez où étaient les gens, il disait mais c'est nul, moi je veux savoir où sont les gens pour de vrai au moment où ils y sont. Et donc vous avez ce principe, par exemple, Mark Zuckerberg, pourquoi il a fait Facebook ? Parce qu'il était tout seul dans sa dorme à se faire chier, qu'il n'avait pas de copains, et que faire un Hot or Not ou un Facebook, c'était vachement mieux pour pouvoir stalker les gens. Donc il faut des gens qui soient obsédés absolument par leur narrative, et donc c'est à partir de là. Donc généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extracte, on extrait des gens de leur volonté de faire quelque chose, finalement une vérité universelle qui va toucher des dizaines ou des centaines de millions de personnes.
Excellent. La deuxième, c'est une question très simple qui traite de d'app dont tu as parlé. Est-ce que séparer Facebook et Messenger, c'était un choix du coup de séparer deux primitives pour pas altérer le produit avec une entre guillemets les diluer si on aurait unifié les deux entreprises?
Honnêtement, bon d'abord j'en ai strictement aucune idée.
Voilà. Exprime-toi pour Marc. Hein.
Bon, voilà. Juste à un moment, quand vous avez. Donc, nous, on garde les produits mobile consumer sur un principe de home screen. Sur votre home screen, vous avez 20 slots. Sur ces 20 slots, il faut que chaque app permette d'exprimer cette narrative et soit une primitive. Le chat en tant que tel est un produit. Vous ne pouvez pas le laisser planquer comme feature d'un produit comme Facebook. Donc, à un moment donné, je pense que Messenger, je ne sais pas à quel moment était extrait Messenger de Facebook, j'imagine que ça a été fait avant le rachat de WhatsApp, mais à vérifier. Mais à un moment donné, tu veux faire la compète avec WhatsApp, tu veux faire la compète avec le SMS, tu veux faire la compète avec tous les chats possibles, et tu veux être inscrit dans le home screen de l'utilisateur. Ton job, quand tu crées une app comme ça, c'est de prendre le plus de place possible. Aujourd'hui, Facebook, ils ont Facebook, Insta, Messenger, WhatsApp, c'est incroyable. Et Snap, ils ont Snap, Zenly, qui sont caméras et map, qui sont deux primitives hyper fortes. Donc la logique, c'est est-ce que cette primitive a une raison d'exister en standalone sur le home screen de l'utilisateur ?
Une excellente question ensuite, qui revient souvent sur les talks, donc c'est très B2C comme framework. Mmh. En B2B, souvent, il est vrai que tu as besoin de développer un petit peu un feature set pour avoir certains clients. Donc dans ce contexte-là, comment s'applique ton framework ? Est-ce que tu peux aussi prôner le concept de primitive, de narrative et d'être aussi borné, aussi focus ?
Bah, de toute manière, tu es obligé d'être borné ou d'être focus pour la simple raison que, et je ne vais pas nous envoyer des fleurs, on est un peu tous bêtes, hein, il nous faut des produits simples. Donc du coup, si tu fais un produit B2B et qu'il est bourré de features et qu'il y a 15 boutons disponibles sur chaque écran, on n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Donc le principe de focus, il s'applique à tous les produits, hein, c'est pas à toi que je vais le dire. Et après, sur la narrative, nous c'est plutôt à ce moment-là, on parle de la story. Vous avez des boîtes B2B comme Payfit, ils vont commencer par vouloir attaquer la fiche de paie, puis après ils se disent, mais une fois qu'on a fait la fiche de paie, en fait, on va faire le système d'information RH, puis une fois qu'on a fait le RH, ben, en fait, on va faire le développement des individus au sein de l'entreprise. Et puis une fois qu'on a commencé à faire le RH, les demandes d'individus, ben finalement on arrive très vite via la fiche de paie au financial management. Est-ce qu'on ne veut pas devenir le Workday européen de demain ? Et donc la narrative, c'est comment est-ce qu'on exprime en une phrase ce qu'on est en train de bâtir. Pour le B2B, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas de primitive en tant que tel, je ne pense pas.
Hyper intéressant. Une autre question qui est très bonne et potentiellement piège. C'est vrai que ton framework, il est bien pour des innovations un peu de rupture. On est dans le psychologique, on est dans le profond, quoi. On est dans des narratives que les gens intègrent peut-être même pas eux-mêmes. Donc la narrative, est-ce que ça devient d'une conviction personnelle en tant qu'entrepreneur ou est-ce que tu écoutes tes utilisateurs?
Oh putain, c'est dur comme question.
T'as une heure.
Sympa, merci. Putain, mais j'en ai aucune idée, moi. Si t'écoutes les utilisateurs, c'est une conviction personnelle. À un moment donné, les mecs, il faut du bol dans la vie, quoi. Donc tu lances un truc, ça marche, tu dis, ah tiens, je m'envoie des photos à ma copine, ça va durer 10 secondes. Ah bah tiens, il y a 1 million de mecs qui l'ont téléchargé, ah c'est cool. Ah bah en même temps, je suis obsédé par la privacy, donc j'ai mis le doigt sur un truc sur lesquels les gens adhèrent. Et donc après, tu vas écouter pour voir comment est-ce que tu fais le lien entre ce que toi, tu crois profondément et ce dont les gens ont besoin profondément. J'imagine que c'est ça.
Allez, une petite question pour se détendre. Tu connais certainement Merci. TikTok.
Ouais.
La narrative de TikTok.
La narrative de TikTok. La merde.
C'est un besoin.
Non, c'est affreux, la narrative de TikTok, c'est les teenagers qui se font chier entre 7 et 9, quoi, tu vois.
Donc,
une fois qu'on a dit ça, c'est combattre l'ennui, la narrative de TikTok, c'est quand même grave. Et la difficulté de combattre l'ennui, c'est qu'à mon avis, il y a énormément de produits de bien meilleure qualité pour combattre l'ennui que TikTok. Comme House Party. House Party, TikTok, tout ça, c'est des apps qui se sont dit, il y a un slot entre 7 et 9 pour le teenager qui s'emmerde, qu'est-ce qu'on leur met dans les mains? Prenons la narrative d'une boîte beaucoup plus intéressante comme Yubo. Vous prenez Yubo. Yubo, ils ont une énorme communauté LGBT à l'intérieur de Yubo. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui vont faire connaissance. Et il y a un vrai besoin pour des diasporas ou des minorités de se retrouver et de se découvrir au sein d'applications dans lesquelles ils ne se sentent pas jugés et pour autant qui leur permettent de faire la connaissance de gens comme eux.
Alors, il y a une question qui est intéressante et qui t'intéresse en tant qu'investisseur, je pense, c'est à propos de la monétisation. Mmh. Alors là, il s'agissait de l'exemple que tu as donné.
On s'en fout.
American way. Il dit Facebook et les pages, c'était essentiel au business pour faire venir les entreprises, les dépenses en ads et in fine les dollars. Mmh. Je pense que ça a trait à une plus large question qui est que, est-ce que tu conseilles de mettre ton business model au sein de la primitive, des enablers? Tu as une vue là-dessus? Comment, en fait, tu fais interagir ton framework avec l'idée de monétiser?
Le job de tout entrepreneur, de toute boîte, dans le monde entier jusqu'à la nuit des temps, c'est de servir incroyablement des gens qui prennent un plaisir extraordinaire à utiliser votre produit. Si vous leur mettez un splash screen de 20 secondes pour Clash of Clans pour la 20e fois dans votre app, c'est pas cool pour l'expérience. Moi, je pense que des boîtes comme Snap, à un moment donné, se pose la question de par quel intervalle je mets de la pub dans mes utilisateurs qui regardent des stories. Je ne veux pas leur détruire l'expérience. Je veux que les advertisers, quand ils mettent de la pub chez moi, il faut qu'elle envoie la pub. Et en plus, si elle envoie cette pub, elle va transformer beaucoup mieux qu'une pub de mauvaise qualité avec une bannière dégueulasse, comme on en trouve régulièrement sur d'autres plateformes. J'ai arrêté de dire le nom de Facebook parce que c'est insupportable, quoi. Ils vont me détester en plus. En même temps, je les connais pas très bien. Moi, ma cam, c'est Snap, c'est Zenly, hein, donc voilà.
On va vite passer à une autre question.
Ouais.
Alors, c'est une boîte dans laquelle vous avez mis un ticket qui s'appelle Wondercraft.
Ouais.
Si je ne m'abuse. Alors, est-ce que tu peux, pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a, expliquer ce que c'est et quelle est la narrative justement de Wondercraft?
Wondercraft, tu le mets dans les produits mobile consumer? Pas trop. Wondercraft, je ne veux pas dire de conneries parce que... long story short, chez Kima, il y a des deals qu'on a fait avant que j'arrive. Wondercraft en fait partie notamment. Donc je ne suis pas complètement au point. Wondercraft, ils font un exosquelette, je crois. Hein. Donc la narrative d'un exosquelette, c'est de permettre à des gens d'être mobiles hein, donc, et de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils n'avaient pas cet exosquelette. Voilà quoi.
Bon, alors je vais t'en donner une autre plus facile. En ce moment, il y a Yuka qui cartonne, 10 millions d'utilisateurs. La narrative de Yuka?
La narrative de Yuka, c'est que les gens en ont marre qu'on se foute de leur gueule. Hein, ils arrivent au supermarché, ils ont une promo sur des melons qui ont voyagé pendant 15 heures, qui ont coûté plus cher à voyager qu'à les mettre dans la bouche. Et Yuka sert à ça. Et d'ailleurs, si j'étais en board avec Yuka, c'est pas le cas. Mais la narrative de Yuka au démarrage, c'est d'offrir de l'information aux gens pour que de manière transparente, ils puissent savoir ce qu'ils consomment. Et un peu plus loin, probablement que la narrative de Yuka, la primitive de Yuka, si elle devait s'étendre, ce serait d'offrir une traçabilité complète des produits que les gens achètent jusqu'au producteur et d'aller même jusqu'à ce qu'on sache qui a gagné quoi dans la chaîne de valeur.
Hyper clair. Écoute, on va prendre un peu d'air, on va parler un petit peu moins de produits et ça nous fera peut-être du bien aussi de diversifier un peu. Il y a une question à laquelle tu peux potentiellement répondre mieux que personne. C'est quel conseil donnerais-tu aux gens ici qui auraient envie de lancer une boîte ?
C'est vachement dur. Non, je vais vous dire ce que nous on cherche chez Kima et je pense que ça va d'abord décomplexer ceux qui vont échouer et la majorité échoue. Et ensuite, même peut-être vous aider à y voir clair à un moment donné quand vous allez vous poser des questions existentielles parce que c'est vraiment, vraiment dur de faire une boîte. Et je vous dis ça parce que je le vois de l'extérieur avec le job le meilleur du monde. Le meilleur parce qu'il est sympa. Moi, je finance des gens qui veulent changer le monde. Il est facile parce que c'est eux qui bossent. Et il est profitable parce que même quand on a qui échoue, ceux qui réussissent nous le rendent au centuple. Donc ça, c'est important. En tant qu'entrepreneur, faites attention à plusieurs choses. La première, c'est que si vous voulez réussir, il faut être optimiste parce que vous allez faire face à 3 tonnes de problèmes tout le temps. Et donc, en fait, être entrepreneur, c'est pas enchaîner les succès, c'est enchaîner la réussite, la résolution d'emmerdes en permanence. La problématique de l'optimisme, c'est que ça rend aveugle, parce que l'optimisme nous rend un peu mythomanes face à nos problèmes et ce à quoi on fait face. Donc essayez de rester clairvoyant, et pour ça, entourez-vous de gens qui vous disent la vérité, honnêtement, brutalement, même si ça fait mal, c'est mieux que quand maman vous dit « Ah, c'est bien mon fils, je t'ai vu sur BFM Business okay. ». Et d'ailleurs, c'est pas vrai, parce qu'elle a allumé BFM TV, elle n'a pas compris que tu n'y étais pas. Ça, c'est vrai. Donc, on cherche des optimistes clairvoyants, on cherche des gens qui apprennent vite. Vous n'avez pas le luxe de ne pas apprendre que vous êtes entrepreneur, surtout quand vous êtes jeune, surtout quand on a une expérience limitée de quelques années. Vous allez faire la compète avec plein d'autres individus qui ont eu la même idée que vous, qui vont essayer d'aller plus vite que vous, plus fort que vous. Si vous n'apprenez pas, vous êtes mort. Donc, il faut apprendre. Et donc, apprenez aussi à juger, à vous juger si vous arrivez à apprendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à apprendre, à progresser, qui sont bons sur des choses très verticalisées. Et puis il y a des gens qui, de manière incroyable, arrivent à prendre de manière horizontale une tonne de sujets, à gérer les gens, à les embaucher, à les emporter, à créer des boîtes qui vont devenir énormes. Et la troisième chose, c'est l'excellence dans l'exécution. Vous n'avez pas le luxe, malheureusement, de faire les choses en à peu près. On n'est pas en art plastique, en CP. C'est un jeu d'excellence, c'est hyper dur. Et donc il faut vraiment cartonner. Et dernière chose qui est importante, ça c'est sur la partie entre guillemets facile, c'est le business. Hein. Mais sur la vraie vie de l'entrepreneur, au quotidien, c'est dur parce que l'entrepreneur, il est seul. Il est seul parce qu'il est isolé. Il est isolé parce que les gens autour de lui, ses proches, ne le comprennent pas forcément. Ils ne comprennent pas forcément tout simplement parce que bah, rien, votre journée, vous la vivez dur. Et quand vous rentrez, vous n'avez pas spécialement envie de la raconter. Hein. C'est assez chiant quand on l'a vécu. La deuxième chose, c'est l'ignorance, ne pas savoir les choses et savoir qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est exténuant. Donc entourez-vous de gens qui ont déjà passé des paliers et assurez-vous que ces gens-là ils vont vous aider à comprendre le futur, de ce que vous devez savoir. Et puis la dernière chose dans ce triptyque de la solitude, c'est le vide. On manque de référentiel quand on est entrepreneur. Et donc il faut vous entourer absolument de gens autour de vous qui sont dans les mêmes problématiques. Parce que le boulot de vos proches, c'est de vous changer les idées. Et le boulot de gens qui sont proches de vous, mais qui sont sur des secteurs similaires ou à des stades similaires, c'est d'échanger sur ce que vous êtes en train de vivre. Et donc faites très attention, parce que les entrepreneurs se lancent beaucoup dans l'exécution. Et à un moment donné, ils en oublient que en fait, c'est une histoire personnelle. Quoi. Business is personal, pour de vrai. Et nous, chez Kima, on cherche à financer les entrepreneurs. Et ce qui nous importe, ce n'est pas qu'ils réussissent, c'est qu'ils progressent.